France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Alors nous recevons maintenant Vincent Crouzet, bonjour.
Bonjour Jacques Monin.
Vous publiez chez Robert Laffont un livre qui s'appelle « Une affaire atomique » qui raconte par le détail l'affaire Uramine. Alors en deux mots, Uramine, c'est une société canadienne qui avait acheté 3 mines d'uranium en Afrique pour 27 millions d'euros et qui les a revendues à Areva pour 1,8 milliard. Oui, vous ne rêvez pas. C'était des mines inexploitables dont on n'a jamais extrait un gramme d'uranium. Au total, en fait, si on ajoute les travaux, c'est un fiasco qui aura coûté la bagatelle de 3 milliards d'euros. Alors ce qu'il faut préciser, Vincent Crouzet, c'est que vous révélez un certain nombre d'informations et vous le faites sur la base d'un témoignage, tout part de là. C'est celui d'un homme d'affaires pakistanais qui un jour vous a approché et vous a fait des confidences. Il s'appelle Saifé Durbar. Alors peut-être en deux mots d'abord, qui est Saifé Durbar et pourquoi est-ce qu'il vous a fait ces confidences?
Saifé Durbar, c'est un homme d'affaires pakistanais, qui a aussi la nationalité centrafricaine et qui en fait était très opérant dans le domaine minier, notamment dans le domaine de l'uranium. Et le 28 octobre 2009, il me fait appeler par l'un de mes amis et je me rends à Londres à ses côtés où il me livre ses secrets de l'affaire Uramine. Et donc je suis dépositaire de ces informations. Pourquoi souhaite-il me rencontrer? C'est qu'il a été condamné un an plus tôt par défaut par la justice française. Il souhaite solder ses comptes avec la justice
condamné,
française.
Condamné, précisons.
Condamné pour une affaire d'escroquerie, mais lui s'en défend. Néanmoins, il souhaite purger sa peine de prison et il me demande d'être son messager auprès de la France afin de bénéficier de conditions de sécurité pendant sa peine de détention contre son silence sur l'affaire Uramine.
De faire passer le message au sommet de l'État. Alors précisons qui vous êtes. Vous êtes un consultant, vous êtes un spécialiste des questions africaines.
À l'époque, je suis consultant, en 2009.
Oui. Vous avez été conseiller auprès du ministre du commerce extérieur, secrétaire d'État au commerce extérieur, et on croit deviner entre les lignes que vous avez des liens avec la DGSE.
J'ai dû avoir des rapports, enfin, oui, j'ai eu une grande proximité avec cette administration. J'en profite pour dire que c'est pas une honte d'avoir travaillé pour les services de renseignement de son pays, au contraire.
J'en fais plutôt
une fierté, voilà. Ouais. Ouais.
Alors donc Saifi Durbar vous explique qu'Uramine, selon lui, c'est une escroquerie.
En fait, la question qui se pose, la seule explication rationnelle sur ce type d'opération, c'est si vous achetez quelque chose qui vaut 66 fois sa valeur, c'est qu'il pourrait y avoir entente présumée entre le vendeur et l'acheteur. Sinon, c'est absolument inexplicable. On ne peut pas l'expliquer.
Et Saifi Durbar vous dit, quand on fait un cadeau à quelqu'un, en général, il vous remercie.
Alors, c'est pas lui qui me le dit, c'est quelqu'un d'autre, mais c'est quelque chose de très courant dans le monde du pétrole et des mines. Quand quelqu'un, effectivement, quand on achète très cher à un vendeur, eh bien le vendeur, effectivement, effectue des rétropaiements et des feedbacks pour remercier cet acheteur. Et ça peut encore plus se comprendre dans le cas d'argent public. C'est-à-dire que là, c'est extrêmement facile, puisqu'en fait, l'acheteur ne perd pas son argent, puisqu'il utilise l'argent du contribuable.
Alors Vincent Crouzet, une fois qu'on a dit ça, on n'a aucune preuve. Tout ça, ce sont des hypothèses,
c'est ce
sont
fascinant.
Des liens. Ouais. On n'a jamais trouvé la trace de la moindre rétrocommission aujourd'hui.
Alors il se trouve qu'aujourd'hui, l'affaire Uramine restera à l'état de fantasme. Si on ne va pas chercher dans le dernier paradis fiscal, où les informations bancaires ne sont pas encore prescrites. C'est-à-dire que s'il y a eu rétropaiement et rétrocommission, c'est passé par des paradis fiscaux, via des compagnies offshore, et tant aux Bermudes qu'aux îles Caïmans, qu'aux îles Vierges Britanniques, il y a prescription sur ces opérations. Et effectivement, dans ces paradis fiscaux, les évidences ont été nettoyées.
Alors vous êtes en train de nous dire qu'il y a un endroit où on peut encore trouver ?
Alors il y a un endroit où on peut encore retrouver traces des rétropaiements, puisque c'est pas très loin de chez nous, c'est un paradis fiscal qui s'appelle la Principauté de Monaco, où à partir de l'été 2007, donc quelques semaines après l'OPA, des mouvements conséquents sont tombés sur des comptes appartenant à une éminente haute personnalité francophone qui n'est, je le précise, ni française ni africaine. Je peux pas donner son nom.
Oui, j'allais vous le demander, oui.
Je peux absolument pas donner son nom parce que c'est quelqu'un de...
Donc elle est monégasque ?
Elle est peut-être monégasque.
Ouais.
Elle est peut-être monégasque. Elle a des rapports très étroits avec le pays de destination finale de ses fonds, qui en fait n'ont été qu'hébergés dans ces trois banques.
Donc vous êtes en train de nous dire qu'il y a à Monaco une ou des banques sur lesquelles on a constaté des flux financiers suspects et qui seraient susceptibles d'avoir été alimentée par des rétrocommissions liées à la vente d'uramine à Areva. C'est ce que vous êtes en train de nous dire.
C'est le dernier endroit où la justice française peut se déployer à travers une demande d'entraide de justice internationale pour mettre la main sur ses comptes. Et je dirais que c'est un petit peu le dernier appel. Dans quelques mois, il sera trop tard. Et si l'on nous dit
pourquoi,
dans quelques
mois... Pourquoi ? Parce que les délais de prescription à Monaco ne sont pas les mêmes que dans d'autres paradis.
Sont de 10 ans. Donc 2007, 2017. On y est. Donc si effectivement ces comptes ont bien été alimentés dans le cadre des rétropaiements de l'affaire Uramine, il ne reste que quelques mois à la justice pour mettre la main sur ces comptes et éventuellement sur les bénéficiaires de ces rétrocommissions. Voilà, je livre cette information parce qu'il faut aller vite et il faut avancer sur ce dossier.
D'accord, alors je précise quand même, Vincent Crouzet, qu'à ce stade et dans ce volet de l'affaire, il n'y a pas eu de mise en examen et on n'a aucune preuve. C'est-à-dire, il y a des soupçons, mais il n'y a pas de preuve.
Les mises en examen...
Il y a des mises en examen dans un autre volet qui est celui de dissimulation.
Ouais, dissimulation et plus comptable. En fait, il faut savoir qu'il y a deux instructions qui sont ouvertes. La première concerne effectivement tout ce qui est comptable.
Oui, la gestion de l'après-Uramine.
Le problème de la dépréciation des actifs, etc.
C'est ça. On reproche à Anne Lauvergeon d'avoir tardé à porter à la connaissance de ses associés, de ses collaborateurs, la réalité du fiasco, parce que elle avait peut-être en tête aussi sa possible reconduction. Donc, cette affaire-là, elle est mise en examen.
Anne Lauvergeon était mise en examen, oui.
Pas dans celle d'éventuelle rétrocommission, etc.
Pas dans l'autre. D'ailleurs, je n'engage absolument pas la responsabilité d'Anne Lauvergeon. Alors là, sur ce dossier-là de l'affaire. Bon, je voudrais être en mesure de vous donner le nom des trois établissements bancaires. En préambule, je dis que je ne mets pas en cause la responsabilité formelle de ces trois établissements qui brassent des milliards de toute manière tous les ans. Néanmoins, la réputation de certains de ces trois établissements laisse à désirer dans le milieu, donc ce ne serait pas étonnant que l'on retrouve des fonds douteux passant par ces trois banques. Alors, il s'agit de trois banques monégasques. La première, c'est la filiale monégasque de la banque suisse Julius Baer, qui est une très grande banque suisse, qui a donc une filiale à Monaco. La seconde banque par laquelle seraient passés donc des fonds des rétrocommissions d'Uramine, c'est la banque Monte dei Paschi, qui est la plus vieille banque privée au monde, qui est une banque siennoise qu'on retrouve dans certains scandales retentissants en Italie. Aujourd'hui, elle apparaît sous le nom de Handbank Monaco depuis 2011. Et la troisième banque, c'est la banque Pache, qui est une filiale du groupe luxembourgeois Havilland. Voilà.
D'où viennent ces informations? Qu'est-ce qui permet de penser qu'il y a eu des flux financiers suspects sur les trois banques que vous venez de citer?
Parce que c'est un témoin qui ne peut pas sortir du bois pour des raisons de sécurité, parce qu'il a obtenu ces informations de manière très confidentielle en interne, par quelqu'un qui participe au système bancaire monégasque.
Vous pouvez pas en dire plus, quoi.
Et c'est très compliqué pour lui. Je prends sur moi le fardeau de donner...
Vous faites le messager une deuxième fois.
Peut-être pas nécessairement du même témoin, mais je le fais pour faire avancer les choses, parce que aujourd'hui, je veux que le... Moi, ce qui m'ennuie dans cette affaire, c'est les gens qui n'assument pas leurs responsabilités. Donc j'aimerais bien que tout le monde participe à cet effort de vérité. Je vous prends un exemple. Quand la brigade financière a demandé à Areva la liste des actionnaires d'Uramine qui ont été rémunérés, Areva a déclaré qu'elle avait égaré cette liste-là. Comment peut-on dire ça? Comment est-ce possible que l'on mette des mois à donner la liste des actionnaires d'Areva si elle n'était pas si sensible?
Bien, merci Vincent Crouzet pour
merci beaucoup.
Ce témoignage.
Merci Jacques.
Je rappelle que votre livre, Une affaire atomique, est paru chez Robert Laffont. Je précise que, au-delà de ce qu'on a dit, de ce qu'on a évoqué, des zones d'ombre qui persistent, il se lit comme un thriller. Et c'est pas toujours le cas. On n'a pas toujours des livres qui ont des qualités informatives, mais aussi des qualités littéraires.